Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée aux défis que représente la Russie dans la relation transatlantique. Le retour de la puissance russe, les ambitions de Moscou en ex-URSS, la guerre en Géorgie en août 2008, les actions militaires russes en Ukraine, l'annexion de la Crimée en mars 2014, l'intervention de Moscou en Syrie. Alors que les pays occidentaux ont mis longtemps à comprendre que les choses avaient changé avec la Russie dans son dernier rapport intitulé « Russie, un test pour l'unité transatlantique », la Transatlantique Académie basée à Washington parle de succès de la relation Union européenne-États-Unis dans le soutien apporté à l'Ukraine. Le rapport était présenté cette semaine à Paris, à l'IHEDN et aux séries Sciences Po. Regard sur ce qui se joue entre la Russie, l'Union européenne et les États-Unis. La présidentielle américaine apparaissant comme une épée de Damoclès au-dessus de la relation transatlantique. Nos invités, Marie Mindras, politologue au CNRS et à Sciences Po Paris. Marie Mindras qui a participé et qui a été chercheur invité cet hiver à l'Académie transatlantique à Washington, également chercheur invité à l'Université de Georgetown. Je signale la réédition de votre ouvrage, Marie Mindras, Russian Politics, Paradox of a Weak State, aux presses universitaires d'Oxford à New York. Marie Mindras, bonjour.
Bonjour.
Et Jacques Rupnik, directeur de recherche à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages, dont Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisins. Aux presses de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
La crise ukrainienne a été pour le moins occultée ces derniers mois pour cause de terrorisme, pour cause de guerre en Syrie, l'intervention russe en Syrie. Ce rapport, Russie, un test pour l'unité transatlantique, Marie Mindras, il est plutôt optimiste quant à la relation Union européenne-États-Unis dans la réponse et le soutien apporté à l'Ukraine. Vous partagez ?
Tout à fait. Je crois que pour la période que nous venons de vivre, les deux dernières années, depuis l'annexion de la Crimée et le vote des premières sanctions contre les autorités russes, il y a ensuite eu d'autres sanctions votées après l'occupation de l'Est du Donbass. Ces sanctions tiennent toujours, elles seront revotées par l'Union européenne dans quelques semaines. Les Américains les maintiennent, les Canadiens les maintiennent. Et on a donc vu une solidarité immédiate de tous les pays occidentaux face à l'agression d'un pays partenaire d'Ukraine. Et le grand défi pour les États-Unis, le Canada et les 28 membres de l'Union européenne, c'est de poursuivre une stratégie d'unité pour à la fois soutenir l'Ukraine et faire passer un message clair à Moscou sur le fait que nous sommes toujours prêts à reprendre le dialogue, les négociations, les échanges, mais à un certain nombre de conditions. Donc le travail que nous avons fait cette année à Washington, nous étions moitié chercheurs européens, moitié chercheurs américains, était d'essayer d'aller à la source de cette réussite, était que vraiment pendant 2 ans, en dépit de toutes les pressions, de toutes les difficultés à l'intérieur de chacun de nos pays, on a tenu ce front uni. Donc on a essayé de comprendre comment cela a été possible et ensuite de voir quelles seraient les embûches dans les mois qui viennent, parce que nécessairement il y en aura. C'est une chose d'avoir une politique de sanctions dans un moment de crise, c'est autre chose de les installer pratiquement comme un système. Et est-ce qu'elles pourront suffire à organiser notre relation avec la Russie dans les 2 ans qui viennent? Ce n'est pas certain.
Jacques Rupnik.
Oui, je pense que quand il y a une situation de crise comme celle qu'on a connue en Ukraine, si on écarte l'option militaire, personne n'a jamais envisagé de faire une nouvelle guerre de Crimée, j'allais dire 1854, la charge de la brigade légère, personne n'avait envie de ce genre de scénario, c'était hors de question. Et alors, quel est l'outil le plus efficace et finalement le principal outil disponible, eh bien, c'était les sanctions économiques. Mmh. C'est là qu'est quand même la relation entre l'Europe et la Russie. L'Europe est quand même le premier partenaire. Donc, des sanctions, ça a un effet. Et c'était pas gagné d'avance parce que non seulement il y a des intérêts divergents, regardez, pas seulement, côté français, déjà, on avait le Mistral. Il y avait un accord qui était signé et qu'on a annulé. Regardez les Allemands, ils ont quand même beaucoup d'entreprises, 6000 entreprises allemandes qui sont installées en Russie. Donc, il y a des intérêts économiques qui allaient dans un autre sens. Même des pays d'Europe de l'Est, que l'on suppose toujours, à tort d'ailleurs, unanimement prêts à en découdre avec la Russie, ce n'était pas du tout le cas. La Hongrie était très réticente, hostile aux sanctions. Les Tchèques, les Slovaques, de même. Finalement, par solidarité européenne, j'allais dire, on a trouvé ce dénominateur commun. Donc, de ce point de vue, c'est pas seulement la cohésion transatlantique, mais c'était aussi la cohésion au sein de l'Union européenne. Je crois que de ce point de vue, politiquement, c'est quelque chose d'assez important. Alors, il faut voir si elles seront renouvelées, et surtout, il faut voir vers quoi peut s'orienter la relation avec la Russie.
Parce qu'il y a tout de même des fragilités, Marie Madras, dans cette cohésion au sein de l'Union européenne. Et cette fragilité, elle va sortir être placée sous les feux de la rampe au moment du renouvellement ou non des sanctions, d'une certaine manière.
Bien sûr. Je ne pense pas en juin. D'ailleurs, Madame Mogherini, qui représente l'Union européenne sur la scène internationale, a dit il y a quelques jours que les sanctions seront maintenues et peut-être même amplifiées. Donc, je pense que juin-juillet, tout est déjà décidé. L'étape suivante sera en décembre, et puis après décembre, il y aura encore une étape. Donc, à chaque fois, on remet sur le feu la question des sanctions. Il faut bien redire qu'il y a différentes sanctions. Il y a celles qui ont suivi l'annexion de la Crimée, qui seront toujours maintenues, puisque la Russie a fait de la Crimée une république de la Fédération de Russie et est bien décidée à ne pas lâcher. Donc, il faut déjà savoir que ces sanctions-là, qui visent essentiellement un certain nombre de personnalités en Russie, qui ont défendu à très haut niveau ou qui ont fait l'annexion, ces sanctions resteront. Donc, on ne pourra jamais revenir au statu quo ante. La Crimée, il y aura toujours avant et après. La Crimée, mars 2014. Alors, les fragilités chez nous, je dirais qu'au fond, elles ont toujours existé. C'est-à-dire que il y a à la fois des différences d'intérêts entre, par exemple, un pays comme la Hongrie et un pays comme la Suède, ou un pays comme la France et un pays comme l'Italie. Mais les différences, les divergences, à mon avis, sont encore plus grandes à l'intérieur de chacun des pays. C'est-à-dire qu'en France, très tôt, il y a eu un lobby au plus haut niveau, et surtout au sein de la droite française, contre les sanctions. Vous prenez pratiquement chacun des pays européens, vous avez toujours eu des divergences sur les sanctions. Et c'est peut-être cela qui a permis à l'Union européenne, en tant qu'institution multilatérale, de décider. Donc, au fond, la décision des sanctions est devenue une décision de l'Union européenne. Et donc, il est difficile pour un gouvernement parmi les 28 d'aller contre ce consensus. C'est-à-dire qu'il faudrait y mettre beaucoup d'énergie pour aller contre le renouvellement du consensus à partir du moment où la position du Kremlin ne bouge pas d'un iota.
Jacques Rupnik, cette unité au sein des 28 et dans la relation transatlantique, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'elle a constitué une surprise pour Moscou ?
Sans doute, oui. Je pense que ça a été une surprise pour beaucoup d'Européens, mais ça a été certainement une surprise pour Moscou. Surtout qu'il, ça vient d'être dit, il y avait les sanctions, le premier stade après l'annexion de la Crimée, puis après il y a eu la deuxième phase, puis la troisième phase. Donc, à chaque fois, disons, on montait d'un cran. Et bien entendu, il y a des fragilités au sein de ce consensus, mais tout dépendra de l'évolution de la situation en Ukraine. Parce que finalement, ces sanctions, elles sont pas là pour mener un bras de fer en soi avec la Russie. Non, c'est pour des raisons très spécifiques. Et donc, il y a un processus qui est engagé, qu'on appelle le processus de Minsk, et où étaient impliqués des Européens, pas l'Union européenne en tant que telle, mais la France et l'Allemagne d'un côté, hein, Hollande, Merkel, avec Poutine, Porochenko, ces accords négociés, Minsk 1, puis avec puis Minsk 2.
Oui, février,
et bien 2015. Entendu, il peut y avoir des évaluations contrastées sur l'application de ces accords. C'est toujours le verre à moitié vide et à moitié plein. Mais c'est sur la base de l'évaluation de ce processus que ces sanctions seront renouvelées ou pas. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est que ce qu'on a appelé le format Normandie, c'est-à-dire ce que je viens de décrire, là, c'est pas l'Union européenne, mais la France et l'Allemagne avec la Russie et l'Ukraine, que ce n'est pas seulement des sanctions, mais il y a un processus politique, un processus diplomatique qui est engagé. Et finalement, on jugera sur pièce l'évolution de la situation en Ukraine. Et je crois que ce qu'essaye de faire la Russie, mais peut-être Marie aura un avis divergent, c'est essayer de, en quelque sorte, d'atténuer pour l'instant les agissements dans le Donbass, disons l'ingérence russe dans cette partie-là, peut-être en espérant qu'une partie au moins des sanctions serait levée dans une réévaluation qui vient à échéance prochainement.
Marie Madras. Oui, juste un petit ajout à ce que vient de dire Jacques Rupnik. Dans les deux négociations Minsk 1 puis Minsk 2 en février 2015, donc qui a permis de produire le deuxième document et qui est donc essentiel non pas tant par les 12 points qui sont inscrits dans ce document, mais par l'instauration d'un processus de négociation. Dans ces négociations était également présente l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. C'est important de le dire, parce que à la fois la Russie et l'Ukraine en sont membres, et étaient également partie à la négociation, mais sur un petit strapontin, les deux chefs séparatistes. Depuis, l'un a disparu, a été remplacé par un autre, qui prétendent gouverner une petite république populaire de Lugansk et l'autre une petite république populaire de Donetsk. Donc, deux parties des deux régions orientales de l'Ukraine qu'on appelle le Donbass. Donc, cette négociation, les Russes et les Ukrainiens, évidemment, en sont partis, mais au sein, aussi en tant que membres de l'OSCE. Donc, je crois qu'il est important de le rappeler, parce que Madame Merkel et Monsieur Hollande représentaient à la fois l'Union européenne, mais aussi une mission OSCE. Et on sait que, depuis le début, les Russes et les séparatistes qui occupent l'Est du Donbass ont refusé de donner accès aux représentants de l'OSCE pour contrôler déjà la zone de front, la zone grise entre deux. Et donc, on en est encore à discuter avec les Russes de l'application de la mission OSCE dans le Donbass. Et les Russes n'ont toujours pas retiré leurs armements lourds du Donbass. Et c'est ça qui est un petit peu étonnant. C'est-à-dire que d'un côté, je pense que Jacques a raison, Vladimir Poutine aurait besoin, peut-être pas d'une levée des sanctions, mais au moins d'un début de négociation, parce que l'économie russe a besoin de revenir à des échanges plus normaux avec l'Union européenne. Mais en même temps, cette rationalité économique ne semble pas jouer. Et on a l'impression que ce que les Russes pensent avoir gagné par le militaire, ils veulent absolument le conserver. Et par ailleurs, parce qu'ils sont de plus en plus contraints économiquement et par nous, enfin par toutes les pressions appliquées par les pays occidentaux, ils n'ont pas pu aller plus loin que cette partie orientale du Donbass. Donc la question que tout le monde se pose aujourd'hui, en particulier à Washington, c'est est-ce qu'on va vers un nouveau conflit gelé en Ukraine, un peu comme en Moldavie, en Arménie et en Géorgie, ou bien est-ce qu'il faut, nous, Européens, forcer un petit peu les choses pour éviter l'enlisement dans le Donbass et essayer de faire appliquer Minsk 2.
Alors, cette question, ce sera peut-être la dernière pour terminer cette première partie de d'émission. Jacques Rupnik, des conflits gelés, il est évident que c'est une stratégie de Moscou bien réfléchie et bien pensée, si on va un tout petit peu plus loin par rapport à ce que vient de dire Marie Mandras. Et l'autre volet de la question, est-ce que on voit une Union européenne capable et avoir le courage de dire à la Russie que la situation actuelle ne la satisfait pas?
Alors sur le premier point, oui, je crois que cette idée des conflits gelés, personne ne pense que la Russie veut envahir l'Ukraine, commencer un grand conflit. C'est un pays quand même grand comme la France avec 45 millions d'habitants. Non, je crois que la stratégie russe, c'est comme vous dites, conflits gelés, faire en sorte que ce problème rende la transformation démocratique de l'Ukraine très aléatoire, pour ne pas dire improbable, et que vous ayez au bout du compte une sorte d'état failli entre l'Europe et la Russie, et cet état affaibli, failli, qui deviendrait un fardeau, pas seulement non plus pour la Russie, mais pour l'Europe. Donc c'est quelque chose de négatif. On a quelque chose à proposer dans la relation à l'Ukraine, mais là c'est quelque chose plutôt de négatif. On veut empêcher que l'Ukraine se développe dans un... Et je crois que ce conflit gelé, et il y en a d'autres, vous avez fait allusion... Mmh. En Moldavie, il y a la question de la Transnistrie. En Géorgie, il y a les deux enclaves, Abkhazie, Ossétie du Sud, etc. Donc ça, c'est un registre sur lequel on peut jouer. Vous demandez ensuite, est-ce que l'Union européenne... Oui, elle constate cela. Elle peut, à l'occasion, protester contre tel ou tel aspect de la politique russe. La capacité d'influer sur ces pays est limitée. Ce que l'Union européenne peut faire, elle peut pas agir beaucoup sur... les enclaves sur ces conflits gelés, si ce n'est à travers le processus de Minsk, justement. Mmh, mmh. Je crois que là, elle peut peser. Ça a été dit, l'OSCE, c'est peut-être pas une organisation parfaite, mais c'est la seule qui soit acceptée par tous les protagonistes. Et donc, ce cadre-là, c'est une façon d'agir. L'autre façon d'agir, c'est de soutenir les réformes en Ukraine même. Et donc, voilà l'agenda européen, processus diplomatique d'un côté avec Minsk, et l'autre qui est soutien aux réformes en Ukraine, et finalement, c'est le pays test pour l'ensemble de la périphérie de la Russie.
Voilà, c'est ce sur quoi je voulais rebondir, Marie Mandras, soutenir les réformes en Ukraine. L'Union européenne a bien compris toute l'importance de ce pays pour la cohésion européenne.
C'est absolument stratégique, parce que pendant des années, nous, Européens, avons abandonné les pays de l'entre-deux, c'est-à-dire les pays qui sont coincés entre la Russie et nous, nous les avons abandonnés aux bons soins de Moscou. Or, il était clair depuis le début que Moscou n'allait pas assurer un développement de ces pays vers la prospérité, la pleine souveraineté, l'indépendance dans le domaine de la sécurité.
Il fallait les soumettre.
C'est-à-dire que ce qui est important pour Moscou, c'est ce que disait Jacques, c'est que ça n'aille pas bien pour eux. C'est-à-dire qu'il reste des pays d'entre-deux, des pays pas vraiment bien développés, qui n'appartiennent nulle part. Poutine ne veut pas conquérir ces pays, il ne veut pas les gérer. Il veut s'assurer qu'ils ne soient pas en état de rejoindre l'Union européenne et encore moins l'Alliance Atlantique. Donc on est plutôt dans la stratégie négative du côté de Moscou. Moscou n'a pas de grand plan pour ces pays, notamment l'Ukraine, mais a une tactique qui est d'empêcher leur bon développement et leur rapprochement avec l'Union européenne. Maintenant que nous, Européens, avons bien compris quelle est la politique de Moscou, nous devons absolument avoir une politique qui permette à ces pays de s'ancrer dans l'espace occidental, l'espace européen, puisque c'est ce qu'ils demandent. C'est-à-dire que ce qu'on vient de voir avec la Crimée et le Donbass, c'est qu'il n'y a pas de troisième voie. C'est comme ça. Donc, ceux qui ont pensé à un moment qu'il pourrait y avoir une zone entre l'Europe et la Russie qui serait différente, qui serait indépendante sans être complètement indépendante, ça n'a pas marché. Ça a conduit au conflit du Donbass. Et maintenant, je dirais vraiment, la balle est dans notre camp. Qu'est-ce que nous sommes capables d'offrir à l'Ukraine, à la Géorgie, à la Biélorussie, à la Moldavie dans les années qui viennent?
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Marie Mandras et Jacques Rupnik dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la relation entre l'Union européenne, les États-Unis et la Russie. Nous retrouvons nos invités, Marie Mindras, politologue au CNRS et à Sciences Po. Marie Mindras qui a été cet hiver chercheur invité à l'Académie transatlantique à Washington, qui vient de publier un rapport intitulé « Russie, un test pour l'unité transatlantique ». Et Jacques Rupnik, directeur de recherche à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages dans Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages aux presses de Sciences Po. Marie Mindras, on l'évoquait dans la première partie de l'émission, finalement l'actualité mondiale a fait que la question ukrainienne a été un petit peu occultée. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Quel état des lieux peut-on faire, notamment de la situation dans le Donbass?
Le Donbass est déstabilisé. Les populations vivent dans un état de précarité qui n'est pas bien connu ici en France. Peut-être aussi que Kiev ne tient pas trop à le souligner parce que Kiev n'a pas vraiment de stratégie pour faire revenir le Donbass au bercail. Et je crois que c'est à nous, Européens, de rappeler que la partie orientale du Donbass, qui est donc occupée par des séparatistes et par l'armée russe, que cette partie du Donbass et ses populations ne peuvent pas tenir éternellement ainsi, que c'est très déstabilisant et que ça ne peut pas devenir un conflit gelé. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'habituer à avoir certains petits territoires, mais où vivent encore autour de 2,5 millions de personnes démunies. Moscou ne s'occupe pas de ses populations. Kiev ne peut plus s'en occuper, puisque Kiev ne peut plus fournir le moindre service à ces populations et que l'OSCE, comme on le disait tout à l'heure, les observateurs de l'OSCE ne peuvent pas non plus y travailler. Moi, j'étais à Kiev en mars dernier. J'ai beaucoup interrogé mes interlocuteurs ukrainiens sur les personnes déplacées du Donbass, au moins 1,5 million de personnes déplacées soit à l'intérieur même du Donbass, entre la partie occupée et la partie non occupée, soit dans d'autres régions de l'Ukraine. On oublie toujours, dans ces périodes de conflit et après, les personnes déplacées. On l'a vu avec la Syrie, il a fallu du temps avant qu'on...
Il y a placé aussi beaucoup en Russie.
Oui, et certaines, et aussi en Russie, tout à fait. Et tout à fait. Donc, ce n'est pas une situation qui a été stabilisée, au contraire. C'est pour ça que le processus de Minsk est si important. Il n'est pas seulement important pour bloquer d'éventuelles avancées russes, mais il est important pour rappeler à toutes les parties en présence, Kiev, Moscou, les séparatistes, que nous ne pouvons pas accepter le fait accompli. Et pour cela, eh bien, il faut bien entendu faire des propositions au gouvernement à Kiev pour les aider à intégrer dans leurs réformes et dans leur budget économique une politique pour ces populations, au moins les populations qui sont dans la partie non occupée, et de garder présent à l'esprit que dans quelques années, il faudra que ces populations puissent de nouveau être gouvernées par Kiev. Il est extrêmement important d'y penser. Et bien entendu, des élections locales dans la partie occupée du Donbass ne peuvent être organisées que si la sécurité des personnes est assurée et qu'on peut faire des listes électorales, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que quand certains gouvernements européens font pression sur Kiev en disant « vous devez organiser ces élections locales », c'est l'un des points du document de Minsk, les Ukrainiens répondent à juste titre « oui, bien sûr, mais une fois que les autorités russes auront assuré la sécurité de ces territoires et que ce ne sera pas, comme ils disent, des élections à la Kalachnikov ». Mais je voudrais dire que je pense que ce processus n'est pas bloqué. Je pense que les autorités russes sont obligées de commencer à ouvrir des négociations avec les Ukrainiens et avec nous, et pas seulement à cause des sanctions économiques. Et on a heureusement un cas heureux. Cette semaine, Nadia Savchenko, la pilote ukrainienne qui avait été condamnée par un tribunal russe à des années de détention, a été libérée et ça a été un grand combat qu'ont mené les Ukrainiens et les Européens. Et voilà, Moscou a dû lâcher.
Alors, Moscou a lâché, Jacques Rupnik, est-ce que il faut y voir un lien avec ce qu'on évoque généralement, qui est une perte d'influence de Moscou dans son environnement proche ces 10 dernières années?
C'est certainement vrai pour ce qui est de la périphérie immédiate, et l'Ukraine est l'enjeu majeur. Stratégiquement, c'est le pays le plus important. Je dirais aussi que cette perte d'influence, peut-être, dans la périphérie immédiate, est compensée par un activisme de la Russie à l'extérieur. On le voit au Moyen-Orient et l'intervention militaire en Syrie. Je laisse de côté des considérations sur le conflit syrien proprement dit. Mais ça a permis à la Russie non seulement de se repositionner comme un interlocuteur des États-Unis, on l'a vu pour le règlement des questions du Moyen-Orient, il y avait d'abord l'Iran, maintenant la Syrie, de consolider le régime très important du point de vue russe et des bases militaires qui sont installées là. Et ça permettait aussi à la Russie de dire aux Européens, écoutez, nous sommes devenus indispensables pour le règlement du problème du Moyen-Orient, de combat contre Daesh, ou les menaces terroristes qui pèsent sur vous. Laissons l'Ukraine, en quelque sorte, au second plan. Et donc, je crois qu'il y a, entre l'Est et le Sud, un jeu russe, je ne dis pas que les Européens doivent l'accepter ou qu'ils l'acceptent, mais en tout cas, implicitement, c'est ça qui est proposé. Le Sud, c'est notre priorité commune, laissons le différent sur l'Ukraine au second plan. C'est alors, un petit peu le message que Poutine essaie de faire.
Est-ce qu'on peut parler de vase communicant, Marie Mandras? Je veux dire, est-ce que finalement, est-ce qu'on peut dire finalement que la Russie n'a pas la capacité à être sur tous les fronts?
Le sujet est complexe. Au départ, quand les autorités russes ont décidé de mener des frappes aériennes aux côtés de Bachar el-Assad en Syrie, donc fin septembre, début octobre, beaucoup ont pensé que c'était une façon de faire un peu un dérivatif de l'Ukraine, comme tout était bloqué au Donbass, et en effet de regagner un petit peu de confiance des Occidentaux, en particulier de Washington, en profitant de leur rôle privilégié en Syrie, puisqu'ils sont, depuis le tout début de cette guerre, le principal soutien d'un régime criminel, le régime de Bachar el-Assad. D'abord, je crois que sur la Syrie, il faut rappeler que la Russie est engagée depuis le tout début, depuis de longues années, mais depuis 2011 et la révolte populaire contre le régime, les Russes n'ont cessé d'armer, de soutenir, d'avoir des conseillers et techniciens militaires sur place en Syrie. Donc ce qui a changé à l'automne dernier, ça a été une action ouverte,
visible,
au côté visible, et qui a eu un impact sur les populations dans un certain nombre de régions de Syrie. Et il faut aussi rappeler que très rapidement, Moscou a perdu une partie de son capital de confiance en ne privilégiant pas les attaques aériennes, les frappes aériennes contre les terroristes, mais aussi dans des parties de la Syrie qui étaient tenues par les oppositions syriennes du premier jour, depuis 2011-2012. Et là, je pense que Poutine a trop rapidement perdu cette possibilité, justement, de négocier avec nous le début du départ de Bachar el-Assad. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, en même temps, prendre les devants, mener des attaques aériennes qui devaient, de son point de vue, permettre et avant tout de maintenir le régime de Bachar. Les Russes ne proposent pas vraiment une stratégie de pacification et de transition vers un nouveau régime. Il m'a semblé aussi, vu de Washington, que la relation Moscou-Washington reste très ténue, même sur la Syrie. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une négociation permanente entre Américains et Russes sur les questions militaires et de sécurité au Moyen-Orient, comme d'ailleurs ça a toujours été le cas, mais l'administration Obama reste extrêmement prudente et ne parle pas de coalition avec la Russie.
Alors, la relation entre Moscou et Washington est très ténue. Marie Mandras vient de le dire. Jacques Rupnik me tourne vers vous. La campagne pour la présidentielle américaine commence à apporter une sorte de, un peu de visibilité dans la relation possible entre, ou en tout cas la stratégie de Washington. Si Donald Trump venait à l'emporter en novembre prochain, être élu président, a commencé en janvier 2017. C'est une relation accrue avec Vladimir Poutine et puis une baisse des moyens octroyés à l'OTAN. Ça fait des nuages. En tout cas, le ciel va changer.
Oui, en tout cas, Donald Trump n'est pas encore président. Il a eu déjà du mal à obtenir l'investiture républicaine. Mais effectivement, n'excluons pas cette hypothèse. C'est vrai que d'un côté, il y a Hillary Clinton, très attachée à la relation transatlantique, déjà sous la présidence de son mari dans les années 90, et bien entendu, quand elle a été secrétaire d'État sous la présidence Obama. Mais Trump insiste sur deux choses. À la fois, il y a le retour de l'isolationnisme américain. C'est pas seulement par rapport à l'Europe, c'est par rapport... Voilà, nous sommes trop engagés, nous sommes un peu partout, et qu'est-ce que ça nous apporte ? Des dépenses extravagantes et des gains économiques tout à fait improbables. Donc c'est la diplomatie qui est axée sur le calcul économique. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, entre Poutine et Trump, il y a une sorte de respect entre des gens qui aiment bien parler fort et qui n'ont pas peur d'employer certains termes qui, en principe, en diplomatie, ne sont pas utilisés. Et il y a, alors Trump le dit ouvertement, l'OTAN, il y a beaucoup de ce qu'il appelle les « free riders ». Les gens, les Européens qui sont là et qui profitent en quelque sorte de la couverture américaine, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils contribuent et qu'ils s'occupent de leur propre sécurité. Donc là, on voit que Trump, effectivement, pour l'OTAN, ce serait, je pense, quelque chose de préoccupant. D'ailleurs, ceux qui sont le plus attachés à l'OTAN dans la relation avec la Russie, c'est-à-dire les pays d'Europe de l'Est, particulièrement la Pologne ou les Baltes, sont, je crois, assez inquiets de voir Donald Trump en si bonne position dans les présidentielles américaines.
Disons aussi que le président des États-Unis ne décide pas tout seul. Il est très contraint par son Congrès. Le Pentagone est très puissant. Je pense qu'il faut à chaque fois mettre un petit peu ça dans le contexte.
Et puis l'élection de Trump est tout à fait improbable. Voilà, reste improbable.
Mais même pour Madame Clinton, si elle est élue, du jour où elle s'installe à la Maison Blanche, les contraintes sont énormes. Mais en effet, je pense que elle a la bonne vision et elle a certainement la compréhension des questions européennes.
Nous évoquions l'OTAN, Jacques Rupnik, le sommet de l'OTAN à venir en juillet prochain à Vienne. Qu'est-ce que l'on peut dire des attentes
à Varsovie.
Qu'est-ce que l'on peut dire des attentes vis-à-vis de l'alliance en provenance des pays de l'ancienne Europe de l'Est
Je crois que les Européens attendent que on réaffirme l'importance du lien transatlantique, c'est à ça que sert l'OTAN. Mmh. Et c'est vrai que dans la première présidence Obama, moins dans la seconde, il y a eu quelques doutes là-dessus, le fameux pivot vers l'Asie, certains doutes sur la solidité de ce lien. Et donc là, je crois que ce qu'on attend, surtout ce qu'attendent les nouveaux membres de l'OTAN, les Européens de l'Est, c'est des réassurances en matière de sécurité du côté de l'OTAN pour les États membres. Mais il n'y aura pas de nouvelles promesses faites. Alors ça, c'est important pour l'Ukraine. Il n'y aura pas de nouvelles promesses, ce qui attendrait des gestes, etc. Et c'est souvent quelque chose agité par les Russes. Mmh. Oui, mais vous avez déclenché tout ça à cause de promesses inconsidérées faites à l'Ukraine pour l'entrée dans l'OTAN. Il n'y a pas eu de telles promesses. Donc c'est un argument, cette idée que l'OTAN voulait inclure, détacher l'Ukraine et en quelque sorte amener l'OTAN aux frontières guerre de la Russie et présenter là une menace. Je crois que c'était un argument qui est utilisé à des fins de politique intérieure, mais qui ne se justifie pas. Donc il n'y aura pas de grands gestes faits de la part de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine, mais il y aura, je pense, des gestes pour, pas seulement des gestes, mais des moyens importants pour rassurer les Baltes, les Polonais. Je signale au passage qu'il y a eu quelques incidents récemment côté aviation et dans la zone baltique qui amènent peut-être l'OTAN à être plus présente qu'elle ne l'était auparavant. Voilà.
Marie Madras, est-ce que le terme imprévisibilité pourrait finalement résumer et être une sorte de constante de la politique en matière étrangère de Moscou ?
Certainement pour nous, l'imprévisibilité est importante. C'est-à-dire que nous avons été surpris de l'annexion de la Crimée et je dirais surtout surpris de la rapidité avec laquelle Moscou a décidé d'annexer en faisant une république de la Fédération de Russie, même d'ailleurs deux sujets de la Fédération, puisque Sébastopol, avec la fameuse flotte, est un sujet détaché de la République de Crimée. Donc, je pense que nous avons aussi été surpris de l'utilisation d'armements lourds, de missiles dans l'est du Donbass, et qui avaient été mis dans les mains de, manifestement, de personnes qui n'étaient pas vraiment formé pour utiliser ce type de matériel. On l'a vu en particulier avec l'accident. Oui, en fait, le fait qu'un missile russe tiré par des combattants ou des militaires dans l'est du Donbass ont descendu un avion de ligne en juillet 2014. Donc, je crois que depuis ce traumatisme de l'avion malaisien, on sait qu'il est très difficile de prévoir les méthodes que vont utiliser les dirigeants russes. Il me semble aussi que cette imprévisibilité s'explique par les difficultés à Moscou de prendre des décisions sereines. C'est-à-dire que ce que j'observe à Moscou, c'est un système de prise de décision de plus en plus restreint, de plus en plus fermé, opaque pour les Russes eux-mêmes, et que à l'intérieur du sérail, comment les discussions ont lieu. Tout ce qu'on peut juger, c'est le résultat de ces décisions, et souvent, nous avons observé ces deux dernières années que le Kremlin faisait des erreurs. Enfin, prenait des décisions qu'ensuite...
Il regrettait
Probablement qu'aujourd'hui, il s'interroge sur l'offensive militaire massive au Donbass à l'été 2014. Parce que aujourd'hui encore, ils en payent le prix diplomatique, le prix économique. Donc pour nous, la question est vraiment de faire passer des messages à Moscou qui sont, on sait qu'on ne peut pas vraiment vous influencer.
Vous dites qui, justement ?
Nous, Européens, vraiment Européens et Américains aussi. Mais je veux dire, oui, nous, Occidentaux, nous disons à Moscou, ben, on sait qu'on peut pas vous influencer, mais on aimerait bien quand même essayer de comprendre qu'est-ce que vous voulez faire et est-ce qu'on pourrait petit à petit rétablir les fils de réelles discussions pour éviter de nouvelles crises qui ont été des crises militaires. Et j'espère que tout doucement, les fils se rétablissent au moins sur les questions de sécurité militaire et de sécurité des personnes sur le continent européen.
Ça me paraît être la conclusion qui convient pour cette émission. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à Marie Madras, politologue au CNRS et à Sciences Po, qui a été cet hiver chercheur invité à l'Académie transatlantique à Washington et qui donc vient de produire un rapport intitulé « Russie, un test pour l'unité transatlantique ». Et je signale aussi la réédition de votre ouvrage, Marie Madras, « Russian Politics, the Paradox of a Weak State » aux presses universitaire d'Oxford à New York, et Jacques Rupnik, directeur de recherche à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages dans géopolitique de la démocratisation de l'Europe et ses voisinages aux presses de Sciences Po. Je signale également la parution dans la collection Que sais-je des presses universitaires de France d'une géopolitique de la Russie signée Françoise Thom et Jean-Sylvestre Montgrenier. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Jérémy Besset. À samedi prochain.